Alors, au cours de toutes ces années, l'Iran a continué à se développer. Selon les statistiques de la Banque mondiale, pour 87 millions d'habitants, donc, il y a aujourd'hui 28 millions de salariés, dont 8 millions dans l'industrie, concentrés dans le pétrole, la sidérurgie, la construction automobile ou mécanique, le textile ou encore l'aviation militaire. Vous savez, c'est celle qui fabrique les fameux drones vendus à Poutine, mais dont on vient d'apprendre que 60% des pièces seraient américaines. Cette industrie est largement contrôlée par les chefs des pasdaran, actifs ou retraités, et par les nombreuses institutions religieuses. La fondation la plus riche est la fondation Mostazafan, ce qui signifie les déshérités. Elle est la seconde plus grande entreprise du pays après la Compagnie nationale iranienne du pétrole. Créée en 1979 pour confisquer les propriétés des proches du Shah, elle a des participations dans presque tous les secteurs économiques du pays. La plus grande sucrerie du pays, celle d'Avtapeh, où les milliers d'hectares de canne à sucre qui en dépendent, appartient au président du Conseil des gardiens de la Constitution. La holding Khatam Al-Anbiya et ses quelque 800 sociétés appartient, elle, au Pasdaran. Elle a le quasi-monopole des grands chantiers du BTP. Les Pasdaran ont la main mise sur l'import-export, sur la production d'armement et sur la manne du pétrole. L'Iran en est le quatrième producteur mondial. Il dispose aussi de la deuxième réserve de gaz naturel. Depuis 2004, le gisement de gaz de South Pars, partagé entre le Qatar et l'Iran dans le golfe Persique, a été mis en exploitation. Cette région est devenue un des plus grands sites industriels au monde, avec quelque chose comme 28 raffineries, 25 usines chimiques, des terminaux gaziers, une immense concentration ouvrière. Cette manne pétrolière et gazière a attiré les compagnies européennes comme Total ou Eni, italienne, mais aussi le russe Gazprom. Jusqu'en 2011, PSA et Renault se partageaient 40% du marché automobile iranien. Pour contourner les sanctions, PSA, mais aussi Mercedes ou Kia, s'étaient associés à des constructeurs locaux comme Iran Kodro, Saipa, pour produire sur place leurs véhicules. Alors cela explique pourquoi les gouvernements européens ont été des chauds partisans de l'accord sur le nucléaire signé à Vienne en 2015 entre Hassan Rouhani, alors président d'Iran, et les grandes puissances. Cet accord, discuté pendant 12 ans, officialisait un réchauffement des relations entre ces puissances et la République islamique. En échange de la levée des sanctions économiques, le gouvernement iranien avait accepté un contrôle très sévère de ses installations nucléaires civiles. Alors l'embargo américain était une entrave pour les capitalistes européens. Ils s'y soumettaient parce qu'ils utilisent le dollar, qui est la monnaie des échanges internationaux, et qu'ils ne veulent surtout pas être exclus du marché américain. Pour mémoire, pour avoir violé les embargos contre l'Iran et Cuba, la BNP Paribas avait été condamnée en 2014 à verser 7 milliards de dollars aux États-Unis. Pour les couches populaires, les embargos se sont toujours traduits par de multiples pénuries, par des pièces détachées manquantes pour les réparations des machines, des usines qui ferment, les prix qui grimpent et le chômage de masse. Ce qui fait que la signature de l'accord de Vienne avait soulevé des espoirs dans la population, espoirs entretenus par le réformateur Rouhani, qui en faisait un argument politique face à ses adversaires dits conservateurs. Mais la levée des sanctions n'a pas mis un terme aux pénuries, ni fournit les emplois attendus. Parce que si les embargos des Occidentaux pèsent depuis des décennies sur la population iranienne, en fait, ils ne font que s'ajouter à la corruption et aux multiples privilèges des dignitaires du régime. Les retombées économiques de la levée des sanctions, la manne pétrolière et les nouveaux contrats signés avec des firmes occidentales ont été accaparés par ces dignitaires. De toute façon, cet accord n'aura pas tenu longtemps. En mai 2018, Trump le dénonçait. Il se faisait ainsi le porte-parole des compagnies pétrolières ou gazières américaines, vent debout contre la reprise des exportations iraniennes. En rétablissant les sanctions, il ne visait pas seulement l'Iran, mais les firmes européennes, principales bénéficiaires de ces nouveaux contrats. Malgré ces cris d'orfraie contre la décision américaine, l'Union européenne s'est alignée. Le retrait de Total, Air France ou British Airways a accéléré le retrait des capitaux étrangers et la pénurie de devises. L'annonce de Trump a provoqué un effondrement de l'économie iranienne. Les spéculateurs, nationaux ou internationaux, ont provoqué la chute du rial, la monnaie iranienne. L'inflation annuelle dépasse aujourd'hui les 50%. Les pénuries ont de nouveau frappé le pays. La production industrielle a chuté, jetant de nouvelles fractions de travailleurs au chômage. Les classes populaires ont payé les conséquences de cette décision américaine. La petite bourgeoisie, qui avait placé beaucoup d'espoir dans cette réouverture économique et qui commençait à en profiter un peu, a plongé dans la crise. Mais toute une fraction de la bourgeoisie iranienne, elle, s'est gavée en profitant de son accès à des dollars échangés au taux de change officiel iranien fixé par l'État pour acheter ensuite des marchandises à l'étranger et les revendre au prix fort sur le marché intérieur. Ce qui fait que cette fois-ci, la propagande du régime visant à détourner toute la colère des classes populaires contre les États-Unis ne marchait plus. Et sur les marchés de Téhéran, on pouvait entendre « Les mollahs ont envoyé leurs enfants aux États-Unis et au Canada et ils nous appauvrissent un peu plus tous les jours. » Alors, malgré les sanctions américaines, malgré tous les aspects obscurantistes du régime, la société iranienne s'est modernisée depuis la chute du Shah. La population est aujourd'hui urbaine à 70%. Elle est jeune et éduquée. La scolarisation est générale et le taux d'alphabétisation dépasse les 85%. Il y a 4 ou 5 millions d'étudiants. Paradoxe de l'Iran, les femmes subissent une ségrégation officielle dans tous les lieux publics. Elles sont exclues de nombreux emplois, doivent être chaperonnées par leur mari, père ou frère pour de multiples actes. Elles peuvent être mariées dès l'âge de 13 ans. Leurs droits sont réduits dans de nombreux domaines, en particulier lors d'un divorce ou d'un héritage. Et en même temps, elles accèdent à l'université, à l'égal des hommes. La ségrégation des femmes a obligé le régime à former des enseignantes, des femmes médecins, des infirmières et d'autres qualifications. Le taux de fécondité dans le pays est passé de 6 enfants par femme à la fin des années 80 à moins de 2 dans les années 2000. Et ça a été rendu possible par la diffusion de la contraception. La chape de plomb des mollahs n'a pas empêché l'évolution de la société. Alors, bien avant la révolte actuelle, des femmes, surtout dans la petite bourgeoisie, refusaient les diktats vestimentaires ou moraux qui leur étaient imposés. Certains, ici, se souviennent peut-être de cette jeune femme debout sur une armoire électrique, brandissant symboliquement son voile au bout d'un bâton en 2017, imité ensuite par des centaines d'autres. Alors, malgré ce niveau d'éducation, des centaines de milliers de jeunes sortent diplômés sans trouver d'emploi. Selon les statistiques officielles, et vous savez comment les statistiques ignorent particulièrement en Iran, beaucoup de pauvres exclus de tout recensement, 4 chômeurs sur 10 ont un diplôme universitaire. Un jeune sur 4 est au chômage. Si on n'a pas de relations ou si on ne se soumet pas aux mafias liées au pouvoir, il est difficile de trouver un emploi. Et c'est encore pire pour les femmes. Seule une femme sur 5 dispose d'un emploi salarié. Et cela alimente l'hostilité au régime de la jeunesse de toutes les classes parce qu'elle est privée de liberté et d'avenir. Alors, malgré la propagande du régime qui entretient depuis 40 ans le mythe selon lequel il serait attentif au sort des déshérités, les classes populaires restent pauvres. Les travailleurs des grandes entreprises et des administrations, dont l'emploi est stable, ont des salaires bien trop faibles pour faire vivre leur famille. Ils doivent se battre en permanence pour toucher leur paye, leur prime, pour ne pas être volés. Comme l'écrivaient fin décembre les employés d'un palais de justice en grève, on est payé en rial, mais nos frais sont en dollars. Avec de si petits salaires et une inflation supérieure à 50%, il est impossible de vivre avec un seul travail. Il faut cumuler 2, voire 3 activités. Les bidonvilles n'ont pas disparu. Des millions de personnes, dont certaines venues d'Afghanistan, vivent de petits boulots, de la vente à la sauvette, de mendicité, de prostitution. Plus de 2 millions d'enfants seraient au travail. Alors ils sont parfois étrangers, comme le dit le régime, en guise d'excuse, comme si l'exploitation d'enfants afghans ou pakistanais était moins choquante que d'enfants iraniens. En réalité, ce sont des enfants pauvres ou abandonnés, toujours plus nombreux, qui tombent sous la coupe des réseaux de trafiquants de drogue, qui est un autre fléau majeur du pays et qui est aussi un indicateur d'état de la société. Il y a plusieurs millions de drogués en Iran, qui est une plaque tournante du trafic mondial d'opium. Les conséquences de l'embargo américain, de la pandémie du Covid-19 dans un pays privé des vaccins et médicaments occidentaux, de la crise générale de l'économie mondiale et de toutes les prévarications des privilégiés du régime, eh bien tout ça, ça a plongé des millions de personnes dans la misère. En 10 ans, le niveau de vie moyen de la population iranienne a été réduit de 25%. Et les souffrances de la population iranienne tranchent avec le train de vie des dignitaires du régime. Leurs privilèges sont partout et ils jurent avec les discours moralisateurs sans cesse affichés. Les fils des mollahs circulent dans des voitures de luxe quand les classes populaires s'entassent dans des transports publics saturés. L'adultère est puni de lapidation, mais des mollahs se font payer pour valider des mariages temporaires qui servent à camoufler la prostitution. Dans les queues des magasins, l'idée que ceux qui dirigent, ministres, hauts fonctionnaires, religieux, sont des voleurs, s'exprime ouvertement depuis des années. La population pauvre ne supporte plus leurs avantages, leurs passe-droits, leur clientélisme. Certains dirigeants du secteur public ont des salaires supérieurs à 50 000 euros par mois, quand celui d'un fonctionnaire ne dépasse pas 350 euros. Alors les privilégiés du régime, qui sont unis pour défendre la République islamique face aux pressions impérialistes, d'une part, et pour garder leurs privilèges face à la population, eh bien, ils sont divisés en fractions concurrentes pour piller les richesses du pays. Alors, en Iran, le véritable homme fort du pays est le guide de la révolution, Ali Khamenei, qui a été élu à vie il y a 33 ans par une assemblée des experts, donc experts officiellement en matière de religion, pas de dictature, hein, mais pour succéder à Khamenei. C'est lui qui a la main sur les nominations aux postes clés de l'appareil d'État. La Constitution impose la prédominance du religieux sur le politique, ce qui confère à l'ensemble du clergé chiite un poids considérable dans l'État, dans la société, dans l'économie. L'État classique demeure, avec les différents ministères. Il est dirigé par un président, élu au suffrage direct, qui compose avec un parlement, lui aussi élu. Mais bon, dans les deux cas, les candidats doivent d'abord être validés par le Conseil des gardiens de la Révolution. À tous les étages, certains élus sont des religieux, d'autres des laïcs. Troisième appareil, les Pasdaran, armée parallèle, qui dispose de corps d'élite pour réprimer à l'intérieur et pour intervenir à l'extérieur. Les Pasdaran ont une puissance politique et économique qu'ils n'entendent perdre sous aucun prétexte. Alors après, les termes de réformateurs, conservateurs, ultra-conservateurs sont trompeurs. Parce que plus que des divergences idéologiques, ce qui sépare ces différentes cliques, c'est leur rivalité pour accéder au pouvoir. Un seul exemple, Ali Larijani, principal réformateur écarté des dernières élections présidentielles en 2021, eh bien, il appartient à une riche famille de notables. Haut gradé des Pasdaran, il a longtemps été un conservateur proche de Khamenei, et c'est un peu sa disgrâce qui l'a transformé en réformateur. L'ancien président Rouhani, salué par les Occidentaux pour avoir signé l'accord sur le nucléaire, apparaît comme un réformateur. Et il avait derrière lui la fraction de la bourgeoisie iranienne qui souhaite normaliser ses relations avec les grandes puissances. Mais le même Rouhani a inauguré son deuxième mandat durant l'hiver 2017-2018 en réprimant férocement les révoltes contre la cherté de la vie. Sous le réformateur Rouhani, le nombre d'exécutions capitales a dépassé tous les records avec plus de 1000 pour la seule année 2015. Alors, les rivalités entre ces différentes cliques ont des répercussions sur la société iranienne. Comme tous les politiciens du monde, ceux d'Iran cherchent à présenter leurs propres intérêts comme ceux de toute la société. Et les coups bas qu'ils se portent ont déclenché plusieurs fois des crises sociales ou politiques qui leur ont échappé. Ainsi, en 2009, les accusations de fraude pour assurer la réélection du conservateur Ahmadinejad face au réformateur Mousavi ont déclenché une révolte. Mousavi avait dragué la jeunesse diplômée, les minorités opprimées, la petite bourgeoisie urbaine qui aspire au mode de vie des pays occidentaux. La répression brutale des opposants a mis un terme à ce mouvement. Cette année-là, le régime a encore réussi à faire défiler des dizaines de milliers de pauvres pour le soutenir. En 2009, les classes populaires ne s'étaient pas mobilisées derrière les réformateurs et la petite bourgeoisie. Ce fut l'inverse en 2017-2018. Quelques semaines après sa réélection, Rouhani, qui se paraît donc des couleurs réformateurs, annonçait une baisse de 50% des subventions sur l'essence et de multiples produits de première nécessité, le blé, le sucre ou encore les œufs, qui remplacent bien souvent, enfin qui remplacent presque toujours la viande chez les pauvres. Alors, les conservateurs ont joué les amis des pauvres en faisant une campagne contre Rouhani. En rétorsion, Rouhani a fait publier les détails du projet de budget de l'État pour l'année à venir. Et c'est ainsi que des millions de gens ont découvert à la télévision que les fondations religieuses recevaient 40% de ce budget pour leur fonctionnement, sans le moindre contrôle, sans payer le moindre impôt. Ces révélations, qui se sont ajoutées à l'inaction et à l'incurie du pouvoir lors d'un meurtrier tremblement de terre en novembre 17, ont déclenché la colère. Alors cette révolte, partie de Machad, au nord-est du pays, s'est étendue à des dizaines de villes. Le soir après le travail, des salariés, des chômeurs, des jeunes se sont rassemblés, sans mot d'ordre ni organisation, pour crier leur colère. Ils faisaient brûler leurs factures de gaz ou d'eau pour signifier qu'ils ne voulaient pas verser un centime à l'État. Les manifestants s'en sont pris à tous les dignitaires du régime, toutes fractions confondues. Les slogans « Mort au dictateur » ou « Ramenni, suceur de sang » faisaient leur apparition. Pour la première fois depuis 1979, les classes pauvres se révoltaient ouvertement contre le régime qui prétendait les représenter. Dépassées par la contestation, toutes les factions ont serré les rangs pour l'étouffer dans le sang. À l'inverse de 2009, là, la petite bourgeoisie intellectuelle ne s'est pas mobilisée. Quelques jours plus tard, les Pasdaran annonçaient la fin de la sédition. De leur côté, les dirigeants occidentaux étaient soulagés que l'ordre règne à Téhéran. Pendant cette révolte de 2018, Macron avait appelé Rouhani pour lui conseiller de restaurer le dialogue, autrement dit, de reprendre le contrôle. Trump, malgré ses diatribes sur le programme nucléaire, etc., a repoussé de 120 jours la restauration des sanctions économiques. Mais l'ordre n'a pas régné longtemps. En novembre 2019, une nouvelle révolte éclatait contre l'augmentation du prix du carburant et des produits de première nécessité. De nouveau, les manifestants s'en sont pris aux dignitaires du régime, aux institutions religieuses, aux locaux des Basidji. Et de nouveau, le régime a noyé dans le sang la révolte en quelques jours. Selon l'agence Reuters, 1500 personnes auraient été abattues dans la rue. Alors, au cours de cette période, les luttes n'ont jamais cessé. Les salariés se sont battus pour toucher leur salaire, sauver leur emploi ou obtenir leur titularisation. Des petits producteurs ont dénoncé les voleurs d'eau, industriels ou gros propriétaires, qui détournent des rivières jusqu'à les assécher. Des petits épargnants, ruinés par la faillite de nombreuses banques locales, supposées garanties par l'État, ont manifesté pour récupérer leurs économies. Des grèves ont touché le pétrole, les transports, la production sucrière, les usines de tracteurs, la métallurgie, l'enseignement. Alors, c'était des grèves économiques pour des augmentations de salaire, pour des embauches, encore une fois, pour toucher des arriérés de salaire qui est permanent. Mais dans un pays où les syndicats indépendants, les syndicats, en fait, sont réprimés et où la police du régime a des agents à l'intérieur des entreprises, toutes les grèves deviennent vite politiques. Alors, si les syndicats sont réprimés, il y a quand même des militants qui en ont parfois créé ou recréé. D'autres ont mis en place des comités de grève pour organiser leur lutte. Ainsi, les 6000 travailleurs de la sucrerie de Haftapé, dans le Khouzestan, ont créé en 2007 le syndicat des travailleurs de la sucrerie de Haftapé. Depuis, ils n'ont cessé de se battre contre la privatisation de l'usine, contre sa fermeture, pour le renvoi du directeur, pour le paiement de leur salaire, pour la libération de leur porte-parole emprisonnée, pour la renationalisation. Les militants de ce syndicat, comme par exemple Ismaël Bakchi, les avocats ou les journalistes qui les soutiennent, comme Sepideh Kolian, ont été tabassés, arrêtés, condamnés à des années de prison pour complot contre l'État ou mise en danger de la sécurité nationale. À plusieurs reprises, le syndicat Vaed des transports publics de Téhéran a déclenché des grèves, entraînant systématiquement des arrestations. Reza Shahabi, un des responsables de ce syndicat, a été condamné en 2012 à 6 ans de prison pour diffusion de propagande contre le système et inimitié envers Dieu. 10 ans plus tard, c'est le dieu pognon aussi, 10 ans plus tard, Reza est toujours en prison, sa vie menacée suite aux mauvais traitements. Malgré la répression, ces syndicats illégaux existent toujours. Le régime s'acharne sur leurs militants parce qu'ils sont connus et qu'ils pourraient jouer un rôle dans les révoltes actuelles ou futures. À l'été 2020, une partie des 10 000 ouvriers du site gazier de South Pars, donc au sud du pays, ont fait grève pour dénoncer les conditions de travail et de logement inhumaines, parce qu'il fait 50 degrés l'été. L'été suivant, ils recommençaient, cette fois pour la titularisation des précaires sous-payés qui travaillent sur les 70 sites de cet immense complexe. Ils ont créé un comité des travailleurs de la sous-traitance pétrolière, élu pour organiser la lutte, qui écrivait dans un tract « Les vis sont serrées par nos mains et les tuyaux sont soudés avec notre sueur. Restez chez vous et voyons si l'échafaudage se dresse tout seul. » Eh bien, ils ont vu, et contraints par la nécessité de faire rentrer l'argent du gaz, Rouhani a commencé par licencier, avant de céder, en tout cas en parole, aux revendications des grévistes. Et comme l'avait reconnu un connaisseur, l'ancien président Ahmadinejad, avec les énormes ressources dont dispose le ministère du pétrole, il n'est pas difficile de répondre à ces demandes. À l'automne 2021, ce fut au tour des enseignants des écoles primaires de se mettre en grève pour leur salaire. Frappés de plein fouet par l'inflation, appauvris, des dizaines de milliers d'enseignants se sont organisés, eux aussi, dans un conseil de coordination des enseignants. Le régime a brisé le mouvement en arrêtant plusieurs militants en vue. Certains ont été libérés après une grève de la faim, d'autres sont toujours emprisonnés. Ces grèves, nombreuses, dans des secteurs importants, montrent la combativité des travailleurs en Iran. L'existence de syndicats semi-clandestins, de comités de grève, montre la capacité des travailleurs à s'organiser même sans une direction politique. Cela nous conforte dans notre conviction, héritée du marxisme et des expériences du passé, que la classe ouvrière, elle a la capacité de prendre le pouvoir. Alors c'est dans ce contexte que la révolte actuelle a éclaté. L'assassinat de Mahsa Amini a libéré la rage accumulée dans de multiples couches sociales. Des dizaines de milliers de jeunes femmes ont décidé de braver la police en brûlant leur voile et circulent désormais tête nue à Téhéran, Ispahan et d'autres villes. Des lycéennes dévoilées ont fait des doigts d'honneur au portrait des guides de la révolution qui trônent dans toutes les salles de classe. Plusieurs sont mortes pour avoir refusé de suivre leur directrice dans des manifestations de soutien au régime. Même des écoliers de 8 ans, 9 ans découpent les portraits des ayatollahs dans leur manuel scolaire et sont sévèrement punis pour ça. Des jeunes de 13 ou 14 ans s'engagent et sont réprimés comme des adultes. La jeunesse est le fer de lance de la révolte. Dans les premières semaines, des étudiants ont cessé les cours, détruit les cloisons qui séparaient le réfectoire des filles de celui des garçons, occupaient leur université avant d'en être délogés manu militari. Mais comment témoigne la profession des jeunes qui ont été exécutés récemment? Ils sont ouvriers, vendeurs, livreurs, chômeurs. La contestation ne s'est pas cantonnée à la petite bourgeoisie. Des jeunes de tous les milieux, unis par la même absence d'avenir, participent à la contestation, attaquent des bâtiments officiels, affrontent la police, bousculent des mollahs dans les rues, occupent le soir des places pour allumer des feux de joie ou pour lancer les slogans de la contestation « Mort au dictateur » qui est au moins autant repris que « Femme, vie et liberté ». Et ces jeunes, ils savent qu'ils risquent de mourir en sortant dans la rue, mais leur courage est plus fort que la peur. La révolte de la jeunesse a trouvé le soutien de multiples classes sociales qui ont chacune leur raison de ne plus supporter la République islamique. Elle a aussi trouvé un écho parmi toutes les minorités nationales qui composent le pays, les Kurdes, Baloutches, Arabes, Azéris, Turkmènes et d'autres encore, dont plusieurs sont opprimés ou relégués. Ce large soutien est aussi un indicateur de la profondeur de la contestation. Pour autant, celle-ci n'a pas de caractère ethnique ou régionaliste, comme l'affirme la propagande du régime, en présentant les manifestants kurdes, qui est donc la région d'origine de Mahsa Amini, comme des séparatistes. C'est vrai que la contestation est forte au Kurdistan, avec des manifestations de masse et des affrontements insurrectionnels avec les Pasdaran. Mais c'est parce que cette région n'a cessé d'être discriminée depuis 1979. L'opposition au régime là-bas y est plus forte et mieux organisée. Cela tient en particulier à l'existence d'organisations politiques repliées dans l'Irak voisin ou dans des pays plus lointains et qui bénéficient de forts relais au Kurdistan. Mais en déployant les chars au Kurdistan, le régime n'a pas réussi à enfoncer un coin entre les Kurdes et les autres Iraniens, qui scandaient par exemple « Du Kurdistan à Téhéran, je me sacrifierai pour l'Iran ». Les manifestants kurdes, qui ont fourni le plus grand contingent de morts et de blessés, ont été célébrés comme des héros dans le pays. Dans une autre région pauvre, où la population est sunnite, le Baloutchistan, qui est aux frontières du Pakistan et de l'Afghanistan, eh bien, il y a des manifestations de rue qui continuent tous les vendredis à avoir lieu, là, dans la foulée de la prière. Parce qu'il faut dire qu'au Baloutchistan, à l'assassinat de Mahsa Amini, s'est ajoutée la colère après le viol et le meurtre d'une jeune Baloutche de 15 ans par le chef de la police du port de Chabar. Et la protection dont a bénéficié le violeur illustre le mépris des autorités vis-à-vis de la population pauvre de cette région. Donc la révolte s'est aussi propagée dans la petite bourgeoisie urbaine qui ne supporte plus les mœurs de la théocratie, son hypocrisie, la fermeture du pays. Des personnalités sportives, artistiques, culturelles ont marqué leur soutien à la contestation, utilisant leur réseau pour la relayer en Iran et à l'extérieur. Plusieurs l'ont d'ailleurs payé de leur arrestation, comme le chanteur Shervin Hajipour, qui a composé la chanson « Baraï », donc ça veut dire « à cause d'eux » en persan, chanson qui est devenue virale, parce qu'elle égrène la liste de tous les interdits de cette dictature. Ou encore, un rappeur très connu en Iran, Tomaj Saheli, toujours en prison, où il risque une condamnation à mort. Des centaines de médecins prennent aussi le même risque pour soigner, voire opérer les manifestants gravement blessés, mais qui fuient les hôpitaux parce que les hôpitaux sont surveillés et infiltrés par la police. Et à la différence de 2009, eh bien les classes populaires qui sont frappées par la flambée des prix, les pénuries, se retrouvent aussi dans la révolte. Le slogan « Pauvreté, corruption, vie chère, on va jusqu'au renversement » a été très repris. Et contrairement à de précédentes contestations, le régime a du mal à organiser des contre-manifestations pro-régime en mobilisant les classes populaires. D'ailleurs, la façon dont la défaite de l'équipe nationale de football face aux États-Unis pendant la Coupe du Monde du Qatar a été fêtée jusque dans les tréfonds du pays en dit long tant sur le discrédit du régime que sur l'usure de ses slogans anti-américains. À deux reprises, en octobre et en décembre, des appels à la grève générale ont été lancés sur les réseaux sociaux ou par la distribution de flyers anonymes. Cette grève a pris diverses formes, comme la fermeture des magasins dans une cinquantaine de villes, y compris dans le Grand Bazar de Téhéran. Parce que si on a dit que les gros commerçants étaient proches des sommets du régime, des centaines de milliers de plus petits subissent la spéculation sur les prix, le racket des Pasdaran qui contrôlent l'import-export. Et cela ont beaucoup de griefs contre les privilégiés du pouvoir. Alors, pour minimiser le soutien de ces commerçants, ce qu'on appelle le bazar, à la révolte, les porte-paroles du régime ont invoqué des menaces de boycott, voire d'incendie des boutiques que les contestateurs auraient lancées contre les commerçants. Mais même si c'était vrai, la trouille des commerçants en dit long sur la pression populaire qu'ils ressentent et sur le soutien que trouve la révolte parmi la population. Alors, à ce jour, les appels à la grève générale pour soutenir la révolte n'ont pas été suivis dans les grandes entreprises et les administrations. La classe ouvrière n'a pas, ou n'a pas encore, engagé sa puissance sociale contre le régime, comme elle avait fini par le faire à la fin de l'année 78. Plusieurs raisons expliquent cet attentisme. Il y a bien sûr le risque de perdre son emploi dans un pays ravagé par l'inflation et le chômage, où toutes les grandes entreprises sont contrôlées par des dignitaires du régime. Mais il y a surtout l'absence d'une direction politique qui apparaissent comme une alternative au régime haï. Parce que pour basculer complètement dans la contestation, il faut que les travailleurs pensent que le régime puisse tomber et être remplacé par un meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que les travailleurs restent l'arme au pied. Le syndicat de Haftapet a apporté son, a fait un communiqué apportant son soutien au peuple opprimé du Kurdistan, exigeait la libération des prisonniers politiques. En octobre, les travailleurs du complexe gazier de South Pars ont fait grève et manifesté. Alors, ils ont subi des arrestations et des licenciements par centaines, mais certains se sont remis en grève en décembre sur des revendications locales. Alors, d'après les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir, des dizaines de milliers de travailleurs ont fait grève entre octobre et décembre. Mais à chaque fois, ils se sont battus pour des revendications économiques sans formuler de slogans directement hostiles au régime. Ainsi, les 15 et 16 novembre, une majorité des 14 000 métallurgistes d'Ispahan se sont rassemblés en rang serré devant leur usine. Les travailleurs de l'automobile, et en particulier des travailleuses, ont fait grève chez l'équipementier Cruz, le plus grand d'Iran, qui est associé à Faurecia. Malgré les menaces contre leurs meneurs, les 1300 ouvriers des aciéries du Gilan ont fait grève. En décembre, ce sont les ouvriers du métro de Téhéran qui ont fait 2 jours de grève pour toucher leur salaire d'octobre. Alors cette liste, basée sur les informations qui nous sont parvenues, n'est pas exhaustive. Elle indique que la contestation menée par la jeunesse encourage les travailleurs à se battre. Alors, menacé, le régime des ayatollahs a répondu comme il le fait depuis des années, en mobilisant ses multiples troupes de répression, police, Basiji, Pasdaran, armée, ses innombrables indicateurs infiltrés partout et tout l'arsenal juridique qu'il a inventé pour éliminer ses opposants. Les forces de répression étant, paraît-il, épuisées et peut-être pour certaines démoralisées, les Pasdaran auraient rapatrié des troupes depuis la Syrie et l'Irak. En réprimant large, des milieux populaires jusqu'à des personnalités issues des classes privilégiées, Khamenei et ses proches veulent montrer à la population comme aux différentes factions du régime, qu'ils ne céderont rien. Comme d'habitude, le régime a tenté d'accuser les ennemis extérieurs et les traites de l'intérieur. En octobre, après un attentat perpétré par Daesh contre un sanctuaire chiite de Shiraz, qui a fait 15 morts, Raisi s'est appuyé sur l'émotion pour organiser des manifestations pro-régime. Mais cela prend de moins en moins. Il tente aussi de monter les classes populaires, prises à la gorge par la montée des prix, contre les contestataires qui sont présentés comme les responsables du chaos économique. Et pour ça, Raisi, il entretient ce chaos. Par exemple, depuis septembre, le début de la révolte, la monnaie iranienne a encore perdu la moitié de sa valeur et les prix ont encore augmenté de 50%. Or, le gouvernement refuse de vendre des dollars pour soutenir le rial, comme il le fait régulièrement. Alors, rien n'indique que ce calcul cynique fonctionne, mais il aggrave un peu plus la souffrance de la population. C'est encore la politique du pire qu'a menée Raisi en envoyant l'armée assiéger le Kurdistan iranien et bombarder le Kurdistan irakien de l'autre côté des frontières. En faisant ça, il a pris le risque de déclencher un engrenage militaire avec les milices kurdes qui sont présentes en Irak et de transformer la révolte sociale contre le régime en une guerre civile entre milices, ce qui s'est passé en Syrie après le printemps arabe de 2011. Mais la tentative a fait long feu. Alors, pendant que les ayatollahs répriment, les dirigeants occidentaux observent. Oh, ils ont fait des déclarations sur la liberté et le droit des femmes. Ils ont placé quelques officiels sur des listes rouges. Ils ont reçu quelques opposantes à la Maison-Blanche ou à l'Élysée. Mais ils ne font même pas le geste élémentaire d'accueillir sans condition tous ceux qui cherchent à fuir la dictature. Et la France est parmi les plus fermées. Des Iraniens, comme d'autres, se voient refuser le droit d'asile, menacés d'expulsion. Ces dernières années, il était plus facile pour un Iranien d'obtenir un visa pour les États-Unis de Trump que pour la France. Alors, encore une fois, si les dirigeants des puissances impérialistes cherchent à affaiblir la République islamique en imposant un embargo dont est victime la population iranienne, ils ne veulent surtout pas qu'elle soit renversée par une révolution populaire. Alors, comme tout le monde le constate, la révolte démarrait il y a bientôt 5 mois, n'a pas de vraie direction politique. Elle a évidemment des organisateurs et de multiples relais. Parce que si des actions de rue, enfin des actions dans la rue peuvent être improvisées, simplement attaquer des bâtiments officiels, par exemple, ça ne s'improvise pas. Alors les réseaux sociaux, même surveillés, jouent un rôle. Bien d'autres canaux par lesquels les idées s'échangent et les opinions se forgent existent, mais nous échappent. On l'a vu aussi, il y a des militants tenaces et courageux des collectifs, parfois, quelquefois des syndicats, qui organisent des travailleurs et des grèves dans les entreprises. Que défendent ces militants depuis septembre ? Existe-t-il autour de ces entreprises ou des quartiers populaires des comités de lutte, même embryonnaires ? Nous n'en avons pas la trace. Depuis 40 ans, la répression systématique a empêché les organisations politiques de se maintenir en Iran. Génération après génération, les militants qui ont survécu à la prison ont été contraints à l'exil. Les partis d'opposition, liquidés par Khomeini, se sont parfois maintenus, mais en exil, où ils ont perdu l'essentiel de leur relais en Iran. Et les manifestants d'aujourd'hui, nés sous la République islamique, n'ont connu que l'histoire écrite par le régime. Alors même si la répression réussissait cette fois encore à étouffer la révolte, celle-ci repartira à un moment ou à un autre encore plus forte, tant est profonde la coupure entre le régime et la population. Mais la question qui se pose, c'est que si la contestation s'approfondit, qui en prendra la tête ? Avec quelle perspective et quel changement pour les opprimés ? En Iran aujourd'hui, comme en Tunisie ou en Égypte en 2011, ou plus récemment lors des révoltes en Algérie, au Soudan, au Sri Lanka ou encore au Kazakhstan, la jeunesse et les exploités ont prouvé leur courage, leur combativité. Mais à chaque fois, quand ces révoltes n'ont pas été écrasées, elles ont été canalisées au profit de généraux qui se sont opportunément démarqués du dictateur en place ou de politiciens oppositionnels qui se sont appuyés sur la contestation pour prendre le pouvoir. Les têtes au sommet de l'État ont parfois changé, mais pas le sort des exploités. Alors en Iran, les candidats pour jouer ce rôle ne manqueront pas. Le slogan « Ni Shah ni Ayatollah » a retenti à Téhéran et apparemment hier encore à Azadehan, au Baloutchistan. Mais cela n'empêche pas le fils du Shah d'être à la manœuvre depuis son exil new-yorkais. Le 13 janvier, il a demandé une procuration aux opposants pour être leur porte-parole et des personnalités en exil se sont empressées de mettre une pétition en ligne intitulée « Le prince Reza Pahlavi est mon représentant ». D'autres politiciens pourraient être propulsés, peut-être parmi telle ou telle faction du régime dont on ignore les manœuvres, ou parmi les démocrates ou les libéraux en exil cornaqués par les services occidentaux. Et l'option d'un coup d'État militaire mené par un officier des Pasdaran pour repeindre la façade du régime, renvoyer Mollah et Ayatollah dans l'ombre, n'est pas à exclure. Alors, la chute de la République islamique serait évidemment un immense soulagement pour des millions d'Iraniens, à commencer par les femmes. Mais s'il ne s'agit que d'un simple ravalement, ou si cette dictature est remplacée par un nouveau régime qui respecte l'ordre social, avec ses profondes inégalités, qui se soumet à la domination impérialiste, les classes populaires continueront à subir la vie chère, les pénuries, le chômage, la misère. Et pour leur faire accepter leur sort, un tel régime ne pourra être qu'une dictature féroce. L'aspiration élémentaire aux libertés démocratiques, le droit de se réunir, de vivre à sa guise, le droit de s'exprimer comme on veut, se heurte à un mur en Iran comme dans tous les pays dominés par l'impérialisme. C'était déjà impossible, en fait, à l'époque des révolutions anticoloniales, dans les années 1950-60, à l'époque où l'économie capitaliste mondiale était quand même en développement pendant une période. Mais cela l'est encore moins dans cette période de crise économique aiguë, où la rivalité entre les capitalistes pour se partager la plus-value intensifie partout la guerre de classe contre les travailleurs, conduit à la guerre tout court et amène au pouvoir des régimes autoritaires, y compris dans les vieilles puissances impérialistes. Alors, les révolutions du passé, proches ou lointains, en Iran comme ailleurs, l'ont montré. Le sort des exploités ne peut pas changer en profondeur tant que durera la domination de la bourgeoisie sur le monde. Mais cette domination n'est pas une fatalité. Elle repose sur l'exploitation de centaines de millions de travailleurs partout dans le monde. Ces travailleurs ont été concentrés pour les besoins du capital. Ils sont reliés entre eux par les milliards de la production et de l'économie capitaliste. Ils contribuent ensemble à extraire les profits des grands bourgeois. Les travailleurs d'Iran, ceux du Golfe Persique voisin, du Moyen-Orient, d'Asie centrale, comme les travailleurs des métropoles impérialistes, ne forment qu'une seule et même classe ouvrière internationale. Cette classe ouvrière mondiale est au cœur du fonctionnement de l'économie. Elle n'a rien à sauvegarder dans le maintien du capitalisme. Elle n'a pas d'intérêt national à défendre. Et on le voit encore aujourd'hui en Iran. La classe ouvrière sait faire surgir de ses rangs, malgré la dictature, des militants capables de l'aider à s'organiser et à combattre l'exploitation. Pour toutes ces raisons, elle représente un levier, une force sociale puissante pour renverser la domination de l'impérialisme et les régimes hideux que cette domination engendre partout dans le monde. Cette conviction, eh bien, elle est à la base des idées communistes révolutionnaires depuis Marx et Engels. Et ce qui manque aujourd'hui à la classe ouvrière pour que ces idées deviennent son programme de combat, c'est la conscience de cette force. C'est la conscience du rôle fondamental qu'elle peut jouer pour entraîner derrière elle tous les opprimés et pour réorganiser la société sur de tout autres bases. Cette conscience, elle ne peut être incarnée que par des femmes et des hommes, des militants de la classe ouvrière qui soient regroupés dans un parti mondial de la révolution. C'était l'objectif de l'Internationale communiste qu'a fondée il y a un siècle sur la base de l'expérience réelle vivante de la révolution russe avant d'être dévoyée par le stalinisme. Eh bien, cet objectif est plus que jamais à l'ordre du jour.